Maman! Maman! Je n'en peux plus!
Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Tels étaient les derniers mots de George Floyd lorsqu'il fut arrêté il y a quelques jours et tué par un ou des policiers, notamment un qui avait son genou totalement accroupi sur sa gorge. Et George Floyd n'avait que ses derniers mots pour expirer. Maman, maman, je n'en peux plus. Et d'autres mots qui nous reviennent à l'esprit où il suppliait ses bourreaux de pouvoir arrêter le supplice. Maman, maman, je n'en peux plus, ce sont ces mots qui nous inspirent aujourd'hui dans cette interlude. Maman, maman, je n'en peux plus exprime toute la colère ou surtout le désespoir de cet homme qui ne peut penser qu'à sa mère au moment d'expirer. Une journaliste qui s'appelle Lona O'Neill partage son émotion, qui est une mère aussi, dans le site internet TheUndefeated.com, parle d'une sorte d'invocation. Elle dit que ces mots, ce cri à sa mère, est une invocation sacrée qui lui parle, auquel elle peut s'identifier. Maman, maman, je n'en peux plus. C'est les derniers mots que cet homme a avant de rendre l'âme de la manière tragique que nous connaissons. Notre série continue avec la reine Karama. Nous profitons de cette biographie pour explorer la culture africaine, son essence que nous avons évidemment désignée en étant matriarcale. Et Karama est la pédagogie que nous utilisons, le matériel didactique, si on peut dire ça comme ça, qui va nous aider à comprendre l'aspect matriarcal de l'Afrique ancienne et de notre culture, de notre essence. Car dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de l'humanité, car l'humanité est née en Afrique, dans cette région des Grands Lacs qui était appelée la terre de Punt, la terre Niger, c'est-à-dire la terre de Dieu. Eh bien, c'est en Afrique, c'est dans ce secteur-là, que les premiers hommes qui ont philosophé, qui ont commencé à s'interroger sur la nature, se sont rendus compte tout simplement que l'homme, la femme viennent d'une femme et que toute cosmogonie devrait être organisée autour de la femme. Voilà pourquoi en Europe on a ce qu'on appelle le phénomène de Vénus, qui sont des statuettes aux formes stéatopiges africaines selon les tresses, par exemple celle qu'on appelle la dame de Brassempouille, la première dame de France, je crois qu'on en a déjà parlé brièvement ici, et d'autres Vénus, hein, sorte de statuettes préhistoriques de femmes que l'on retrouve un peu éparpillées en Europe, eh bien, sont tout simplement les fruits de l'industrie artistique des premières populations noires qui ont émigré en Europe, car, disons-le, le phénotype blanc caucasien n'apparaît que vers 6 à 8 000 avant Jésus-Christ. Et pendant des millénaires, donc, nous n'avons eu que des populations noires qui vivaient. C'est la science qui le dit, c'est la science qui parle ici. Donc, au moment où les populations quittent l'Afrique pour émigrer vers l'Europe, nous avons donc des populations typiquement noires et voilà pourquoi l'industrie qui représente ces personnes sont de la sorte. Beaucoup voient en ces industries, en ces statuettes, des cultes de fertilité car les parties féminines sont dites exagérées. Cela peut être une possibilité, mais nous savons que le type négroïde, comme on dit, a la stéatopigie et d'autres caractéristiques de ces formes-là, les tresses par exemple, qui ne sont aussi que des représentations de ce qu'ils voyaient, mais aussi, évidemment, l'exagération peut être là, mais une exagération de ce qui existait, de ce qui était déjà connu. Fertilité, certes, mais mélanité évidente. Donc, très tôt, on a eu à voir cette manifestation de la femme au niveau des cultes et au niveau de l'organisation, ce qui fait que les populations ont été matriarcales à la base, aussi bien dans le prédynastique égyptien que lorsque l'état égyptien pharaonique, qu'on appelle la Tamiri à l'époque, se forme à ce niveau-là avec le symbole de la houe que nous avons développé au cours de nos émissions précédentes. La femme donc va occuper un poste de choix dans le panthéon égyptien, de sorte où on observe ce qu'on appelle l'énéade et plus tard l'ogdoade. L'énéade, en fait, ce sont les 9, entre guillemets, dieux primordiaux, des entités, des concepts qu'on traduirait mieux par nos langues africaines par les ndélé, les ndéla ou les bendélé au pluriel, qui va se traduire chez les Égyptiens par Tanéger, car Néger, nous en avons parlé dans une émission précédente où j'expliquais comment le mot Néter va devenir Ndélé dans les langues bantoues de l'Afrique centrale. Et je rappelle une petite parenthèse que, on l'a dit une fois, que bantou, nilotique, pygmée, tout ça, c'est un peu une escroquerie parce que, toutes les bantous, les nilotiques sont tous viennent du Nil. Donc, dire que tels sont nilotiques, tels sont bantous, c'est une supercherie, une escroquerie. Des ethnologues lorsqu'ils sont arrivés pour découper le continent africain. Donc lorsque l'on passe de la langue pharaonique des Égyptiens, qui est une langue tout à fait africaine, hein, avec les variantes que l'on sait, que l'on connaît, lorsque l'on prend Néter, eh bien on va voir que un peu plus au sud, on va le transformer par, ce mot va devenir Ndélé, hein, donc les Néter qu'on va dire que les égyptologues vont traduire par Dieu, et que nous on va traduire par Ndélé, et au pluriel ça donne Bendélé, et en ancien égyptien, au pluriel, ça va donner Netcheru. Donc la Tanéger, la terre des Ndélé, c'est l'Afrique centrale. C'est là la terre de Dieu, c'est là la terre sacrée, parce que l'histoire de l'humanité commence là. Et les plus vieux ossements de l'humanité, c'est là qu'on les trouve, bien qu'il y en a un qu'on a retrouvé au niveau du Maroc là. Mais on sait que les premières immigrations ont eu lieu vraiment en Afrique centrale. Il suffirait de chercher encore plus pour repousser la date de l'origine de l'humanité, toujours en Afrique, car ça ne change, ça ne quitte pas le continent africain. Alors, dans le panthéon, donc nous disions égyptien ou prédynastique ou du moins dynastique ou plutôt ou peut-être dynastique, nous avons l'énéade, donc les 9 entités, les 9 bendélé primordiaux. Et parmi eux, donc il y a Ra, le soleil qui brille tout feu tout flamme. Mais nous avons aussi Chou et nous avons Tefnout qui vont donner Geb, qui vont donner Nout et qui vont donner Osiris, qui vont donner Seth, qui vont donner Hathor et Nephthys. Nous avons donc 9 divinités primordiales au niveau de l'Égypte ancienne. Et nous disons que Tefnout est représenté par une femme à tête de lionne. Et ça nous renvoie à tout ce que nous avons développé sur Bastet, Sekhmet et Nate, et Nike même, ou Nike. Tefnout donc est cette forme féminine, cette énergie, cette entité que l'ancien Égyptien vont représenter sous les traits d'une femme ou d'une femme à tête de lionne. Car la lionne, c'est elle qui chasse, c'est elle qui pratiquement contrôle la savane. Car dans l'iconographie égyptienne, oui, on a certes le lion qui apparaît parfois, mais la lionne est beaucoup plus marquée. Le mâle va plus se représenter par le taureau ou l'aigle, mais la femme, quand on montre son autorité, c'est plus la lionne. Car le lion, oui, il a un peu tendance à être paresseux, hein, il est là dans la savane, il est là, il se prélasse, pendant que c'est les lionnes qui vont à la chasse. Le mâle, lui, par contre, comme nous l'avons dit, égyptien, africain, va plutôt se représenter en taureau, en bouc par moment, par l'aigle, mais aussi par un animal que vous connaissez très 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 bien, le léopard, animal tout terrain, animal farouche, animal de la caste des hommes léopards, animal qui représente Seth, nous en avons parlé, et qui est dans son mythe originel associé à un lion qui aurait été marqué à vie, d'où la naissance des points noirs. Donc le lion se transforme en léopard pour montrer que le léopard est supérieur quelque part au lion. Et le lion qui est un symbole aussi d'un animal dans le désert, car sa couleur pouvait le camoufler. Pouvait servir de tenue de camouflage dans le désert afin que Horus ne le voit pas, mais une fois qu'Anubis s'est jeté sur lui pour le marquer, le lion devient léopard, d'où le léopard est le symbole de Seth. Le lion est aussi le symbole de Seth, mais un Seth qui n'est pas encore marqué, donc la peau marquée, le léopard est une peau beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante. Et nous avons dit ici que la peau des léopards, ou la peau du lion, et qui est dans le désert et qui est marquée par Anubis, eh bien, est égal dans les symboles à la peau de chameau. Voilà pourquoi vous voyez dans les textes bibliques, par exemple, que Jean-Baptiste porte une peau de chameau, parce que c'est un initié. C'est pas pour rien qu'il porte une peau de chameau. C'est pas parce qu'il était pauvre, non. Ça va au-delà de ça. Il faut parler des symboles. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Nous parlions de Touf, de Tefnout. J'espère que vous nous suivez toujours. Tefnout, qui est donc cette représentation de l'Énéade. Nous avons donc Atum, hein, ou Ra, qui va donner Atum. Atum qui va donner Tefnout Eshu, Tefnout qui est en fait la femme, la consorte de Shout, et elle représente l'air. C'est une femme qui représente l'air et l'eau aussi. Lorsque George Floyd, dont les images nous meurtrissent le cœur encore, crie « Maman, maman, je n'en peux plus !» Lorsqu'elle crie « Je ne peux plus respirer !» Cette respiration nous rappelle Tefnout, qui donne, ou qui est le symbole dans la pensée égyptienne, de l'air qui entre en chacun d'entre nous, en l'être humain, et qui lui donne cette énergie pour brûler, au fait, le carbone nécessaire pour que l'homme ait son énergie dans les cellules à travers le fameux cycle de Krebs. Ce souffle de vie qui lui manque nous fait penser justement à cette pensée que les Égyptiens avaient. Et que pour eux, c'est la femme qui représentait cette énergie aussi. Et lorsqu'il crie donc « Maman, maman, je n'en peux plus, je ne peux plus respirer », associer sa maman à la respiration, à la vie, au moment où la vie lui quitte, il pense peut-être à sa naissance. Dit-on, on dit parfois que lorsque l'homme meurt, le cerveau reste encore pendant 7 minutes en activité. Et pendant ces quelques minutes, le cerveau, l'esprit humain s'ouvre à une sorte de flashback qui ramène notre vie devant nous, devant nos yeux. Et cela ouvre des portes à des visions et autres. George Floyd peut-être voit sa vie passer devant lui, et c'est sa mère qui lui parle. C'est ces mots qui reviennent à lui. Maman, maman, je n'en peux plus. Nous voilà donc ici l'importance du matriarcal dans la vie africaine, dans la vie noire en général, car lorsque les anciens Africains ont conçu le monde, l'humanité autour d'elles ou leur civilisation, la femme était placée au centre des choses. Voilà pourquoi il y avait une succession qui était matriarcale. Voilà pourquoi le roi devait épouser une femme de sang royal. Et celui qui héritait, même si le pharaon avait plusieurs femmes autour de lui, ou en tout cas cinq, si je ne me trompe pas, qui étaient peut-être des femmes de second rang, des épouses de second rang. Il y avait une seule femme qui était royale et des épouses de second rang, mais celle qui devait devenir, l'héritier qui devait devenir roi, ou Nessout Biti, ou le Nessout, et le Nessout ça signifie simplement tout celui qui vient du sud, pour montrer que la civilisation pharaonique est vraiment celle qui vient du sud, parce que même le nom même de roi ou de dirigeant signifie celui qui vient du sud. Le mot pharaon comme tel, il apparaît très tard au niveau de la 19e ou 25e dynastie, qui signifie grande maison, quelque chose comme ça. Mais le vrai terme, celui de Nessout, là, ça signifie simplement celui qui vient du sud, car le symbole du jonc, la plante qui représente aussi le pharaon, qui est toujours devant l'abeille, et bien, donc la haute Égypte, donc le sud qui est devant la basse Égypte, le sud qui est toujours devant, oh, excusez-moi, je m'en mets la pelle-pesso. La haute Égypte qui est toujours au sud a toujours préséance sur la basse Égypte qui est au nord. Donc c'est ainsi que les pharaons prenaient toujours ce titre du sud. Tefnout donc représentait cette femme, cette lionne, et à travers son image, on peut avoir celle plus tard aussi d'Isis, d'Hathor, mais aussi celle de Bastet, celle de Sekhmet, celle de Neith aussi, qui donnera plus tard Athéna, qui donnera plus tard Nike, lorsque les Grecs vont prendre ce savoir-là africain, pour le transposer dans le savoir grec. Nous avons donc voulu commencer par cette volonté d'honorer les femmes, d'honorer nos mamans, d'honorer nos sœurs, d'honorer les filles dans le monde africain. Car cet homme qui a perdu sa vie a crié à sa maman avant d'expirer. Et nous avons expliqué maintenant, tout à l'heure, que l'importance de la femme, l'importance du matriarcal est primordiale dans les sociétés africaines. Et nous avons exploré à travers la reine Karama, à travers son initiation, à travers sa vie, à travers son pouvoir, que nous continuerons et nous allons clôturer bien très bientôt, peut-être cette semaine. Nous avons exploré l'importance de la femme et nous comprenons pourquoi George Floyd crie à elle. Car la femme est symbole de pouvoir, de puissance. Nous ne sommes pas au mois de mars, mais la femme, il lui a été donné le mois de mars pour son combat, ou du moins dans l'idéologie occidentale, car dans la pensée africaine, le mot féminisme est né dans un contexte européen, mais ceux des Africains, la pensée africaine va au-delà de ça, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante en mon sens, car le féminisme est un combat européen, ou qui a commencé en Europe, avec une histoire de ségrégation, ou une histoire plutôt de domination des femmes, de l'Occident, de la femme occidentale, qui lorsqu'elle se projette dans le passé, elle voit sa condition à Rome et en Grèce, va construire donc une lutte pour s'émanciper, pour se développer, et peut-être même pour surpasser l'homme ou le détruire, parce que de par son berceau, elle a été marginalisée. Ce qui est complètement différent du cheminement africain, de par les mythes, de par la cosmogonie, de par l'histoire telle que je viens de la narrer, de la raconter tout à l'heure, avec la préhistoire, avec l'Égypte, avec Tefnut, avec Maat, car lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on veut combattre, lorsqu'on est dans le combat pour les droits des femmes, on parle de justice, on parle d'inégalité, de manque de représentation. Mais dans l'essence africaine, Maat, qui est la justice, la vérité et l'équité, est une femme. En Afrique, il y a le symbole de, lorsqu'on veut parler des questions d'équité, de justice, la femme est déjà là. Alors que dans le paradigme occidental, lorsqu'on veut parler de justice et d'équité, il n'y a pas de paradigme occidental. On voit directement l'homme, on dit voilà l'homme, on parle de patriarcal, alors que en Égypte, en Afrique, quand on parle justice, équité, directement on voit une femme. Et voilà pourquoi il y a des représentations de Pharaon avec une main tendue, avec Maat sur sa main. Donc lorsqu'on peut, on veut plaider la cause de la femme, il y a déjà ipso facto la femme qui est là. Par Maat, qui était cette énergie, qui était ce Ndélé, qui représentait la vérité, la justice et l'équité, c'était représenté par une femme avec des ailes. Voilà pourquoi on parle de la Maat, il faut respecter la Maat, parce que c'était ça le concept primordial en Égypte ancienne, la justice, la vérité, l'amour, l'équité. Que les Grecs ont essayé un peu de transformer avec Athéna, mais sans grand succès, parce que Athéna était beaucoup plus au niveau guerrier, bien qu'elle était aussi représentée l'intelligence. Mais Maat était beaucoup plus fort, car dans les sociétés grecques n'ont jamais atteint le niveau égyptien au niveau des droits des femmes, car là-bas, au contraire, c'était super patriarcal et jusqu'à dans la nudité. Bon, bref, où est-ce qu'on veut dire? Alors qu'en Égypte, on avait, au contraire, ce respect de la femme. La femme était une institution à tel point qu'elle pouvait régner, comme nous l'avons dit dans le cas de Karama, qui n'est pas forcément une exception. Il y a aussi d'autres reines qui ont régné, surtout au niveau des Kandaka, les Kandas d'Éthiopie, du Soudan, donc. De Kerma, de Kouch, ça c'est la même chose, qui ont régné avec des reines comme Amanitore ou Amanishaketo, et je rappelle, ce sont souvent des noms qu'on a un peu essayé de angliciser tout ça, mais en réalité ce sont des noms purement africains, après on dit Amani, on reconnaît, c'est comme le Swahili. Donc le combat n'est pas le même, le combat féministe européen super eurocentré n'est pas le même que le combat qui se dirait féministe africain, car les bases ne sont pas les mêmes, car lorsque les pirates sont arrivés chez nous, et bien vous savez que tout a été chamboulé, et maintenant les hommes super macho africains croient que voilà, la place de la femme, c'est ceci, c'est dans nos coutumes, dans nos cultures, alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé, comment ça se passait dans nos coutumes, dans nos cultures. La reine Zinga qui était au Congo, là, dans le royaume Congo, là, ah bon? On allait venir lui raconter des histoires macho là-bas? Ah non, hein? Elle était guerrière, et elle était reine, et elle se battait. Système matriarcal qui existait. Donc, on avait la conception de la reine guerrière que l'on retrouve très très loin dans l'histoire africaine avec Bastet, avec Sekhmet, avec Neith aussi, qui est une représentation de la déesse guerre, de la guerrière, et plus tard aussi avec Tefnut aussi, qui aussi symbolise la rage, car il y a un récit de Tefnut qu'on le retrouve dans un livre écrit par Wilkinson, où l'on dit que Tefnut était en rage, elle était fâchée, car elle s'était rendue compte que les anciens Égyptiens ne lui vouaient plus le culte qu'elle méritait, qu'elle n'était plus respectée. Et vous savez ce qui se passe dans l'histoire africaine? Quand une femme, ou dans la société africaine, je voulais dire, quand une femme est fâchée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses clics et ses claques. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut rentrer chez ses parents, ou la femme en général. Quand elle est fâchée, ou son mari, ou qu'il y a un problème, et ben elle peut rentrer chez elle. Eh bien, Tefnut, c'est ce qui lui arrive dans l'histoire égyptienne, dans leur mythologie. Elle est fatiguée parce que son peuple ne la vénère plus, ne la respecte plus comme elle veut, et elle fuit. Et devinez où Tefnut fuit? En Nubie. La Nubie, c'est quoi, vous savez? C'est le Soudan, c'est le pays qui est au sud, hein, la Tassétie, la terre de l'arc. L'arc, c'est le pays où les anciens Égyptiens, d'où les anciens Égyptiens venaient, où les ces Nubiens là, qu'on appelait les Nubiens, on a déjà bien dit ici que c'est une supercherie, ce mot de Nubie là, c'est plus le pays de Kouch, hein, la Tassétie, la terre de l'arc. Eh bien, elle fouille là-bas parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus respectée comme elle fallait. Alors, elle va où? En Nubie. Pourquoi va-t-elle en Nubie? Tout simplement parce qu'elle vient de là. Et c'est Tefnout, c'est la divinité primordiale. On est au début de la civilisation égyptienne. Elle fuit en Nubie. Fuit-elle en Syrie? Fuit-elle en Palestine? Fuit-elle en Arabie Saoudite? Fuit-elle en Irak? Fuit-elle en Iran? Non. Elle fuit où? En Nubie. On retrouve cette référence donc dans le livre The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt de Wilkinson. Donc, on nous parle de ce récit de Tefnout qui fuit en Nubie, car c'est de là qu'elle vient. Elle va chez ses parents, elle va dans sa famille, c'est de là qu'elle vient. Donc, encore une autre preuve où on montre bien que cette civilisation égyptienne, eh bien, elle vient du fin fond de l'Afrique, de la terre de Dieu. Et non pas, comme on pourrait dire, d'Europe ou de Chine ou d'Hawaï ou encore de la planète Mars ou de l'on ne sait quelle planète. Donc nous sommes ici vraiment dans un paradigme purement africain où l'Égypte ancienne est bâtie sur des fondements matriarcales, sur la femme, sur son importance et sur sa puissance. George Floyd crie « Maman, maman, je ne peux pas respirer » et « Maman, respiration », cela nous renvoie justement à Tefnout qui représente l'air, qui représente la respiration, qui représente la mer primordiale. Vous voyez le lien, le jeu de mots qui est entre mer et air, hein, qui, dans ce qu'on dirait, pour ceux qui connaissent, les mystères, la langue des oiseaux, et bien mer, air, et bien voilà. Mer qui renvoie aussi à l'eau, car Tefnout aussi représente l'eau. Hein. Elle est son signe aussi, l'un de ses signes, c'est les fameuses ondulations aquatiques. Et bien Tefnout représente la mer, elle représente l'eau. Hein. L'eau qui comme la mer, hein. La mer où on peut se baigner, aussi bien la mère qui est la maman. Donc vous voyez que mère, air, hein, mère, maman, mère, la mère avec de l'eau, et l'air, vous voyez, car l'eau qui se transforme en eau, l'eau qui se transforme en air, hein, par évaporation, c'est la même chose, hein, c'est la même formule chimique H2O, que ce soit l'air, que ce soit en vapeur, ou que ce soit en eau, ou que ce soit en solide. Donc vous voyez que tout ça, il y a des mystères, tout cela est inclus dedans. On n'a pas le temps de nous éterniser sur ces sujets, ça nous prendrait trop de temps. Mais nous avons juste voulu montrer le lien matriarcal, le lien qui tient les Africains, les hommes, à leur maman, à leur femme. D'où dans cette quête de reconstruction de l'homme africain ou de l'unité ou de l'humanité, il faut que nous puissions restaurer cette relation femme-homme, restaurer cette relation mère-fils, et aussi père-fille, restaurer ces éléments, restaurer ces relations entre hommes et femmes. Nous avions dit que Hatshepsut avait une relation très privilégiée avec son père, mais aussi avec sa mère, car dans le temple de Karnak, si je me trompe, il y a la représentation de l'humanité, d'une parthénogenèse, hein, parce que la reine Neit, au fait, lorsqu'on regarde l'étymologie de son nom, ou lorsqu'on regarde tout ce qui se rapporte à elle, eh bien, ça veut simplement dire, parmi ses attributs, parmi ceux qui renvoient à Neit, eh bien, il y a ce terme-là qui veut dire que je suis venu de moi-même. Et on voit très bien que la maman d'Hatshepsut, dans ce temple-là, est visitée par Thoth, Djehouti, qu'on a dans l'un de ses noms, pour lui dire que voilà, tu auras un enfant de la part de Dieu. Et cet enfant-là, c'était Hatshepsut. Évidemment, c'est un mythe qui a été créé par Hatshepsut, mais on se voit bien que l'histoire d'Immaculée Conception vient déjà au niveau de l'Égypte. C'est déjà connu dans beaucoup de mythes égyptiens. Il y a cette histoire d'Immaculée Conception. D'où donc, je disais, le fait que nous retrouvons dans son leadership, cette volonté de s'affirmer, de se représenter comme un être divin, charismatique, qui reconnaît l'importance de la femme, car si elle a pu se hisser là où elle était, c'est parce qu'elle a su se tenir aussi sur des femmes bien établies dans la société égyptienne, chose que l'on ne pouvait même pas rêver au niveau de la Grèce et de la Rome. Combien de reines, d'empereurs, femmes y a-t-il eu à Rome? Combien de César, femmes y a à Rome? Combien de rois, de reines puissante qui règne par elle-même en Grèce, pour vous montrer que c'est le paradigme qui est différent. Donc lorsque l'on parle féminisme au niveau de l'Europe, surtout au niveau des Africaines, il faut bien mettre les paradigmes, bien utiliser les paradigmes pour pouvoir savoir dans quoi on met les pieds et comment se défendre. Il faut savoir qui on est, quelle est son identité afin de pouvoir défendre les choses telles que l'on est. Sinon on défend ses intérêts avec les intérêts des autres et ça peut nous tomber sur voilà, ça peut nous retomber à la figure. Donc voilà pourquoi il faut attaquer les concepts avec les bons éléments pour pouvoir les défendre comme il faut. Donc nous voulons pousser encore plus loin le concept de matriarcal au niveau de matriarcal ou matriarcat ou concept matriarcal au niveau de l'Afrique pour montrer ses fondements, fondements qu'a utilisé brillamment la reine Karama et fondements qui sont encore dans les tripes même quelque part de George Floyd qui crie à sa mère au moment où il expire. Et en ce moment, beaucoup sont certainement en colère, beaucoup sont certainement tristes, beaucoup se sentent certainement powerless, comme on dit en anglais, sans pouvoir, impuissant, je dirais. Mais il est important de savoir qu'ici, nous sommes dans la stratégie. Et lorsque l'on est frappé, lorsqu'on perd un soldat, eh bien, il ne faut pas perdre le moral. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, oui, il y a un temps aussi pour se relever. On n'arrête pas la bataille ou la guerre parce qu'on a des hommes qui tombent ou des femmes qui tombent. On continue la guerre et c'est après qu'on va ramasser les morts. Mais c'est vrai qu'en c'est un moment maintenant où il faut se recueillir plutôt. Il faut se recueillir, mais il faut aussi il y a pas de recueillement. Mais c'est le moment aussi où vous lisez. C'est les moments où chacun peut prendre son courage à deux mains et aussi à avancer. Et nous avons donné la part belle aux femmes, aux dames. Et maintenant, nous allons aussi donner la part belle aux hommes, au courage, aux courageux, aux guerriers qui doivent se lever. Nous avons parlé du mois de mars qui était attribué à la femme. Mais nous disons que Mars, nous l'avons révélé ici. Mars, c'est la guerre qui a donné les arts martiaux. Et Mars, c'est le dieu romain de la guerre qui a été emprunté à Arès. Arès, lui, qui a été emprunté à qui? Si vous nous suivez bien, à qui? Question pour un champion, à qui? Je vous laisse encore réfléchir. Muntu, oui, vous avez trouvé. Muntu, que l'autre appelle Mentu. Muntu qui a été, au fait, pris par les Grecs pour en faire Arès. Arès qui a été pris par les Romains pour en faire Mars. Donc, cette attribution de la femme au mois de la guerre doit être compris par les Africains que la guerre aussi est intrinsèquement liée à la femme. C'est vrai qu'on pourrait dire, oui, il y a Athéna et la guerre, mais en Afrique, c'est beaucoup plus concret parce que ça vient directement de Muntu. Et Muntu, on sait qu'on peut aussi voir à côté de lui Sekhmet, qui est la déesse de la guerre, la femme de la guerre, la femme qui représente la guerre, ou encore Bastet. Et lorsque l'on regarde tous ces concepts-là, nous voyons bien que chez les Africains, les choses vont de pair. On a toujours l'homme et la femme qui vont de pair. Ainsi, on a les écoles initiatiques exclusivement féminines et les écoles initiatiques exclusivement masculines, comme celle des léopards par exemple. Mais tous ne vont pas développer un discours selon lequel, oh, celui des les hommes léopards, il faut détruire les sociétés des femmes. Non, c'est inscrit dans la société. Les femmes doivent aller se faire initier de leur société et les hommes devraient aller se faire initier pour l'équilibre de la nature. Les femmes vont apprendre à comment s'affirmer, trouver leur passion, quel travail elles veulent faire. Ce n'est sans limite pas simplement on va l'apprendre à préparer, apprendre à bailler la maison et c'est fini. Non, ça va au-delà de ça parce qu'on a beaucoup de femmes médecins, surtout au niveau de l'Égypte. Il y a beaucoup de d'autres fonctions qu'elles pouvaient occuper, de hautes fonctions, de fonctions de haut rang. Donc ça ne se limitait pas simplement à les apprendre à comment cuisiner. Non, ça va au-delà de ça. Et les hommes aussi, les hommes léopards, on les apprenait aussi à faire pas mal de choses. Donc ce n'est pas deux écoles qui s'affrontent, comme on pourrait voir aujourd'hui, les féministes qui s'élèvent, aussi les sociétés pour la protection des droits des hommes. Il y a des choses comme ça aussi en Occident, comme ça là, qui se clashent. Voilà, vous les femmes, vous les hommes, et se battent. Et c'est là une guerre thermonucléaire qui n'en finit pas. Alors qu'en Égypte, on avait une civilisation beaucoup plus harmonieuse où on savait que les deux devaient exister. L'un ne devait pas, écraser l'autre. Voilà pourquoi on voit la balance, on voit des portraits d'hommes et de femmes très souvent dans la société égyptienne, de familles, ce qu'on voit très rarement à la même époque dans d'autres civilisations. Nous voulons donc dire par là qu'il faut l'équilibre des deux. Et comme nous avons commencé avec la femme, nous avons commencé avec cet homme qui crie à sa maman pour montrer l'équilibre qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme et son enfant. Nous avons parlé du lien qu'il y avait entre Karama et son père, telle fille, était l'une de nos émissions ici. Il faut donc rétablir la balance afin que la femme soit la guerrière qu'elle mérite, la femme africaine soit la guerrière qu'elle devrait être et que l'homme africain soit le guerrier qu'il devrait être. Par guerrière féminine, nous avons parlé longuement de Sekhmet, de Bastet, qui a donné plus tard Athéna et Nike. Et nous vous avons dit que plus ça vient encore plus loin avec Nate. Et aujourd'hui, nous avons parlé aussi de Tefnut, qui a la tête de lion, donc qui chasse, qui est donc dans la bagarre, qui aussi donc représente la guerre, qui représente donc depuis les temps ancestraux dans la civilisation égyptienne, la femme qui est battante. Et voilà pourquoi vous verrez que les émanations de Sekhmet, de Bastet, d'Isis, d'Hathor, Nephthys, tout cela ne seront que des différentes variantes aussi de Tefnut qui, à la base, est dans l'Énéade, donc qui est au commencement de toutes choses pour organiser la société. Nous donc passons donc au niveau de l'homme maintenant qui se doit être guerrier. George Floyd est tombé, mort, asphyxié pratiquement. Et les hommes se sentent donc impuissants, powerless. Mais il est intéressant de se rendre compte que dans la mythologie ou dans la culture populaire, il y a un personnage très connu qui représente la force en lui-même. Nous sommes ici dans les stratégies de pouvoir et de force, de rapport de force, de stratégie de force. Et l'un des personnages les plus emblématiques qui représente cette force, du moins physique, c'est Hercule de l'Égypte antique. Nous avons dit ici, je crois, dans une des émissions, que Hercule, au fait, représentait Banéjet, une représentation de Osiris avec une tête de bélier. Mais plus loin que ça encore, on sait que Hercule, de son nom Héraclès, vient en fait de l'Égypte, du nom d'Horus qu'on appelle Oracti. En effet, dans le livre de Hérodote, son livre Enquête, donc Hérodote en Égypte, dans son livre Enquête, dans l'une de ses enquêtes, chiffrée XL3, voilà ce que Hérodote nous dit. Cet Hercule est, à ce qu'on m'a assuré, un des 12 dieux. Quant à l'autre Hercule, si connu des Grecs, je n'en ai jamais pu rien apprendre dans aucun endroit de l'Égypte. Entre autres preuves que je pourrais apporter que les Égyptiens n'ont point emprunté des Grecs le nom d'Hercule, mais que ce sont les Grecs qui l'ont pris d'eux. Donc les Grecs ont pris le nom d'Hercule chez les Égyptiens. Et principalement ceux d'entre eux qui ont donné ce nom au fils d'Amphitryon. Amphitryon qui est le père d'Hercule dans la mythologie grecque. Je m'arrêterai à celle-ci. Deux points. Le père et la mère de cet Hercule, Amphitryon et Alcmène, étaient originaires d'Égypte. Et plus loin, Rodot ajoute, Hercule est un dieu très ancien chez les Égyptiens. Et comme ils le disent eux-mêmes, il est du nombre de ces 12 dieux qui sont nés des 8 dieux 17 000 ans avant le règne d'Amasis. Et lorsqu'on parle de 8 dieux en Égypte, ça renvoie à ce qu'on appelle l'Okdoad, qui est les 8 dieux primordiaux, ou d'autres paroles, c'est les 9 dieux. Et vous savez, par exemple, chez les chrétiens, on parle de l'esprit de Dieu qui a 7 esprits. Et dans l'un des esprits, c'est le mal. Parce que on dit ailleurs que, je crois que j'en avais parlé, que ce mal-là entre chez Saül. Donc il y a un esprit du mal chez Dieu. Donc parmi cet esprit-là, il y a le mal qui est là. Donc quand Satan sera détruit, ce mal-là sera aussi détruit, il va toujours persister. Donc, point d'interrogation, c'est une discussion qu'on aura plus tard dans une autre émission. Je sais que ça va troubler beaucoup de gens, mais il n'y a rien de troublant là-dedans. Tout est clair et net quand vous savez voir les choses dans la vérité. Donc, nous disions que Hercule ici est originaire d'Égypte, d'après les mots d'Hérodote lui-même. Et nous avons dit que Hercule aussi, par rapport à Banéjet Osiris. Donc, c'est un concept qui a été pris en Égypte, que les Grecs ont adapté pour créer le personnage d'Hercule. Ce qui nous intéresse encore ici, nous allons parler du concept de Kongo Rikishi. Qui nous intéresse ici. Kongo Rikishi, c'est deux statues de lutteurs ou catcheurs qui sont présents en Asie et qui protègent Bouddha. Ce qui est intéressant avec ce nom, on entend le mot Kongo. Kongo Rikishi, en un seul mot. Alors, comment est-ce que la racine Kongo se retrouve dans ce mot? Pourquoi? Est-ce un hasard simplement linguistique? Pas si certain. Car certains s'accordent à dire que ces deux statues de Kongo Rikishi, qui sont les protecteurs de Bouddha, et vous savez, on connaît aussi les relations qu'il y a eu entre l'Asie et l'Afrique à travers la route de la soie et bien avant ça. Je rappelle qu'on a parlé ici des différentes populations africaines qui ont eu à émigrer en Asie. Et plus loin même, les aborigènes d'Australie, d'où venaient-ils? Ils sont nés par magie là-bas? Non, ils sont tout simplement des immigrés africains qui ont traversé et navigué pour arriver là. On trouve dans l'île Sentinelli, près de l'Inde, des populations noires qui habitent là. Et j'ai fait une autre émission, je parlais d'un autre peuple là aussi, noir, que l'on retrouve au niveau de l'Asie, qui sont extrêmement noirs, très noirs, et qui ont juste tout simplement émigré pour arriver là. Et on connaît les Dravidiens aussi de l'Inde, dans le sud de l'Inde, qui sont aussi extrêmement noirs. Donc on sait que les premières populations qui sont arrivées, c'est des populations noires. Voilà pourquoi vous voyez que le Bouddha a les cheveux crépus. Il suffit simplement de lire le livre « Histoire millénaire des Noirs en Asie », qui est disponible en français, écrit par Rachidi Runoko, et je crois d'autres historiens, je crois. Donc la présence noire en Asie est donc avérée, et le commerce même, plus tard même en Afrique impériale, donc avant la colonisation, il y avait du commerce entre la Chine même et l'Afrique de l'Est, ce qui a déjà avéré. Donc, ce qui prouve que beaucoup de concepts africains ont pu voyager au niveau de l'Asie. Nous parlons donc de Kongo Rikishi, qui sont deux statues au niveau du bouddhisme, de guerriers qui protègent le Bouddha. D'après certaines sources, on nous dirait que ces deux guerriers ont été inspirés par la culture hellénistique, donc grecque, d'Hercule, et les gens auraient apporté cette image d'Hercule au niveau de l'Asie, avec à travers, par exemple, le commerce de la soie. Mais nous rappelons que nous venons de dire que Hercule, l'image d'Hercule est une image africaine. Hercule, c'était noir à la base. Parce que même quand vous regardez les vases anciens là, les amphores, vous voyez l'art noir. C'est vrai que l'art a commencé de manière servile en Grèce, avec les kouros par exemple, qui étaient une imitation servile de l'art égyptien. Et on voit les statues égyptiennes qui représentent des hommes droits, marchant le pied gauche, je pense, vers l'avant, les poings fermés, tendus vers le bas. Eh bien, les kouros étaient idem, avec des tresses très africaines que l'on retrouve sur la tête de ces kouros-là. C'est après que l'art grec va s'émanciper en devenant beaucoup plus grec, s'il faut le dire. Mais à la base, c'était l'art africain. Et les amphores, voilà pourquoi il y a des figures noires, parce qu'il y avait cette fascination pour tout ce qui était africain, car les Grecs ont appris des Égyptiens. J'en ai abondamment parlé ici avec les citations de Saint Clément d'Alexandrie et encore de beaucoup d'autres personnes comme Hérodote, dont j'ai partagé aussi une citation si je pense, qui disait que la plupart des panthéons du panthéon égyptien fait le panthéon grec. Donc tout ce qui était en Grèce, lorsqu'il y a eu contact entre la Grèce avec l'Asie, notamment avec les conquêtes de Xerxès, avec la Perse, lorsque les Perses ont envahi la Grèce, vous connaissez le film 300 avec Xerxès là, c'est pas vraiment des trucs historiques, mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a une guerre entre la Grèce et la Perse. Je dis le film en lui-même, hein, parce qu'avec des choses racistes là dont on n'a pas envie de reparler ici. Juste pour vous donner une idée. Donc la Perse a envahi la Grèce, oui, les Spartiates et tout ça là, et les Perses ont aussi envahi l'Égypte. Donc c'est là où vous voyez comment est-ce que des idées, des concepts africains ont pu passer au niveau de l'Asie. Et je rappelle que toujours dans cette région là de hellénistique de la Méditerranée, nous avons l'Italie et nous avons les premiers habitants de ces régions là qui sont les Étrusques. Et les Étrusques, quelle langue parlaient-ils? Une langue qui était apparentée aussi au Kikongo. Nous avons parlé ici d'un livre écrit par Monsieur Mello, Pasteur Mello, qui était Les origines bantoues du latin, disponible sur Amazon. Je vous invite à lire ce livre pour vous faire une idée. Eh bien, les Étrusques ont aussi des origines africaines. Cherchez les origines africaines des Étrusques. Même dans l'art, vous verrez beaucoup d'art où on représente des Noirs. On en a parlé aussi ici, notamment dans l'île de Santorin. Et dans le bassin méditerranéen, à Knossos, à Minos, vous verrez beaucoup de Noirs de peau qui vivaient dans ces lieux-là. Il y a un excellent article du site Lisapo et Akama qui parlait des Étrusques, où on montre les racines noires de ces peuples-là, et vous verrez qu'il y avait des Noirs qui habitaient là. Quand vous ajoutez à ça les éléments de Monsieur Mello, ou Pasteur Mello, qui parle des origines bantoues du latin, dont professeur, comment il s'appelle Omotunde, Kalala Omotunde parle aussi souvent dans ses interventions. Lorsque vous ajoutez au fait que dans la dernière revue Kumaba de Monsieur Dibombarimbo qui est apparue, où il fait une remarquable démonstration sur les racines africaines de la civilisation égyptienne, notamment au niveau de la basse Égypte, donc le nord, donc le delta, que dans la pensée africaine on l'appelle Congo. Donc lorsque vous ajoutez aux éléments que nous avons apportés ici dans le podcast, les éléments innovants sur la vocalisation du pharaon Nekao II dans les livres bibliques, et qu'il est en réalité prononcé Nekongo II, et qu'il est celui qui a envoyé des bateaux qui ont fait la circumnavigation de l'Afrique, et que ces gens auraient pu faire des escales au niveau de la Namibie et du Royaume Congo peut-être à l'époque, peut-être, et qu'on retrouve le mot Nekongo plus même au niveau de la Namibie, je pense bien, plus même qu'au niveau du Congo. On retrouve ça au Congo, en Namibie, au Congo, donc la côte ouest africaine, sud-ouest, on retrouve ce mot Nekongo. Eh bien, on se rend compte que cette racine Nekongo est très en vogue au niveau de la basse Égypte, au niveau du Delta, au niveau de la Méditerranée, vers moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, au niveau où il y avait Nekongo a régné, au niveau où la racine Congo était utilisée, au niveau où les Étrusques, à l'époque disons, où les Étrusques étaient présents en Méditerranée, à l'époque où les Nekongo régnaient, à l'époque où les Perses envahissent la Méditerranée, on voit que la racine Congo est en vogue, car elle est aussi liée à la Ou, qui était le symbole qui était utilisé aussi beaucoup au niveau de Nekongo, à l'époque de Nekongo, pour notamment la creusée des canals qui devait se faire. Donc on voit que cette racine, entre moins 500 et moins 400, voire même jusqu'à aller peut-être plus loin vers moins 600, entre moins 600 et moins 400, on voit donc qu'il y a un berceau culturel directement lié à la racine Congo, et qui a pu passer au niveau de l'Asie, avec les concepts de Congo Rikishi, car on dit qu'il serait hellénistique par origine, mais on se rend compte que Hercule est en réalité africain, que le mot Hercule est lié à Horus, au Rarkati, comme nous l'avons dit, nous l'avons lu sur Hérodote ici, et ou encore sur Banejet qui est une version d'Osiris avec une tête de bélier. Donc nous voyons que beaucoup d'éléments culturels expliquent la présence de ces deux guerriers, et qui sont des lutteurs, et la lutte nubienne est très très proche de la lutte que l'on trouve au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ou encore de le tombeau de Khnoumhotep II, dont nous avons parlé lorsque nous parlions de Nekongo II, pardon, de Mountouhotep II. La lutte dans le tombeau de Khnoumhotep II montre des gens qui font de la lutte, hein, des mouvements d'arts martiaux qui sont très proches de la lutte nubienne, de la lutte ouest africaine, et curieusement, ce sont des lutteurs, des gens qui font de la lutte, qui sont les deux guerriers qui protègent le Bouddha. Donc on se rend bien compte que c'est le berceau égypto-nubien et noir méditerranéen qui donne le concept de Congo Rikishi. D'autres diront non, mais c'est simplement Hercule. Non, Hercule vient de la civilisation africaine. Donc on voit bien que c'est le berceau égypto-nubien, le berceau mélano-méditerranéen qui donne naissance au concept de Congo Rikishi, qui sont les deux guerriers qui protègent le Bouddha. Eh bien, c'est là où nous allons chuter, c'est là où nous voulons arriver, pour dire que l'homme noir est un guerrier et sa culture a voyagé dans le monde entier, car il est un guerrier, car il est un homme puissant. Donc, encouragement aux femmes, encouragement aux hommes, encouragement à l'humanité, parce qu'on est meilleur que ça, on est vraiment meilleur que ce foisonnement de haine, ce déferlement de haine, de rage. On est beaucoup, 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 beaucoup mieux que ça. On vaut beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et nous avons voulu en parler au travers de le concept de mère, de maman en Afrique, le concept d'homme en Afrique, de guerrier, hein, de Muntu. Hein, le Muntu est un guerrier, mais Muntu qui a donné Arès et le reste. La femme africaine qui est une guerrière, une battante, qui a donné, qui découle de Tefnut, Nate. à tort, Isis, Maat, la justice, hein, quand on parle de défense des droits des femmes, c'est dans ça que l'on, dans la société africaine, on se retrouve, on se réfère. Et dans l'homme, nous avons parlé de ces Kongo-Rikishi, qui sont les hommes noirs, donc, parce que lorsque Royam est né de ces Kongo-Rikishi, ils ont des nez négroïdes. Un peu comme les nés aussi des Olmecs, hein, noirs qu'on retrouve en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est ça, être noir, c'est ça, être africain. C'est une civilisation qui a régné, qui a émané, qui s'est répercutée dans tout le monde entier. Et c'est vrai qu'en ce moment, les gens se sentent impuissants, les gens se sentent faibles, les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire de l'humanité pour mériter tout ça ?» Eh bien nous, on est ici pour rappeler que vous êtes puissants, que les Noirs sont forts, que les Noirs sont puissantes et qu'il y a une culture, cette culture Congo, cette culture africaine Congo qu'on le retrouve au niveau de la Haute-Égypte. Hein, j'ai fait référence à la revue Kumaba qui parle bien de ces choses, de ces concepts-là. Et nous avons aussi parlé une fois de la peau de hérisson, hein, de ces productions tégumentaires qui sont l'exemple de l'union, qu'il faut se rassembler comme un seul homme, comme ces productions tégumentaires là afin de former une défense qui permet de vaincre les léopards qui est au fait l'adversaire et de pouvoir s'arracher, s'accaparer de sa peau afin de pouvoir se restaurer, se régénérer et de pouvoir avancer. Ce sont ça les concepts et les images qu'il y a dans au niveau du combat, en tout cas au niveau de la confrérie des hommes léopards. Ce sont les différents enseignements qui sont donnés et qui faisaient l'homme africain dans son essence. Donc dans ce climat où l'on se sent en guerre, où l'on se sent menacé, où on se sent visé, eh bien c'est ça qu'il faut se mettre en tête, que la culture africaine a émané, hein, elle s'est répandue à travers l'humanité et qu'il ne faut surtout pas se voir comme faible, car les hommes les plus puissants ont été des hommes africains et qui ont été ensuite blanchis pour x, y, z raisons, parce que cette culture-là était enviée, cette culture-là, c'est celle que l'on voulait imiter. Donc, bonjour, bonsoir à tous encore, vie, durée et santé, bon courage, bye bye.